Et avec nous aussi, Marie Treps. Mais avant de vous présenter, Marie, répondez-moi à la question rituelle. Je vous poserai la même tout à l'heure à Anna Alter. Quand est-ce que ça a crumblé grave pour vous?
Ah, eh bien, j'ai passé ma belle jeunesse à la frontière belge, oui, côté français. Et alors, de temps en temps, on allait en Belgique. Alors, on passait la frontière, c'était une frontière assez symbolique. Il y avait quand même une barrière rouge et blanche et un képi derrière. Mais le paysage ne changeait pas, donc il n'y avait rien de particulier. Mais, au niveau des mots, ce n'était pas la même chose. On ne parlait pas tout à fait le même français là-bas derrière qu'en France. Par exemple, on disait arvoy et bonjour au lieu de dire au revoir et bonjour. Et puis, un petit sandwich, ça s'appelait un pistolet, un imbécile, un jondu. Et ensuite, les grands jours, on s'aventurait un peu plus au nord et on arrivait à Bruxelles. Alors là, il se passait quelque chose de très étrange, parce qu'apparaissait une seconde langue qui avait autant à voir avec la première qu'un car, une carpe à voir avec un lapin. C'était le flamand, bien sûr. Et lire les panneaux routiers, c'était une véritable aventure oculaire.
Oui, c'est vrai que c'est un casse-tête.
Et il y avait des voyelles redoublées, des consonnes, des suites de consonnes improbables. J'avais l'impression que c'était une langue très débauchée, comme ça. Et je me suis dit qu'on n'avait pourtant pas passé de frontière. Et il y avait une frontière quand même bien plus violente que la première. Et je me suis dit, au fond, j'ai l'impression que les langues, quelquefois, ça peut servir à construire des murs. Cette intuition-là a été confirmée par la suite, parce que j'ai aperçu que les Flamands et les Wallons, et on voit ça encore en ce moment, pouvaient en venir aux mains pour des questions linguistiques. Ils sont en fait des questions identitaires. Ça, j'ai compris beaucoup plus tard. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup marquée. C'est peut-être pour ça que je suis devenue linguiste.
Alors, Marie Treps, elle voyage avec les mots, les histoires, les images dont sont emplis les mots. Elle nous fait partager ses voyages. Après les mots voyageurs et le dico des mots caresses, voici pour les plus jeunes les mots oiseaux chez Sorbier. C'est un très joli abécédaire des mots français venus d'ailleurs. On y découvre que le store est italien, le matelas arabe, le camarade espagnol, le cauchemar franco-néerlandais et bien d'autres voyages que nous ferons ensemble. Marie Treps est chercheuse au CNRS où elle travaille plus précisément sur les tziganes, mais elle est aussi folle des mots. Vous êtes vraiment tombée dans la marmite toute petite.
Ouais.
D'ailleurs, c'est une jolie anecdote, comment vous êtes tombée dans les mots. Vous la racontez sur votre site.
Ah oui. Oui, j'avais une marraine qui un jour m'envoyait toujours un petit cadeau à mon anniversaire et un jour, elle m'envoyait un petit paquet serré comme ça avec une ficelle. Et alors, petit paquet, grandes espérances. Seulement quand je l'ai ouvert, j'étais très déçue parce que dans un premier temps, il y avait des mouchoirs en batiste, donc très blancs comme une feuille de papier, avec dans l'angle mes initiales brodées, Marie-Odile Treps. Alors, mon nom était devenu un mot et pas n'importe quel mot. Le mot qui est le plus abstrait, mais en même temps qui représente toute la réalité du monde.
Et, voilà. Et donc vous êtes tombée dans la folie des mots,
oui,
et vous continuez.
Peut-être qu'elle a une grande responsabilité.
Les mots oiseaux, c'est votre petit dernier, Marie Treps, Marie-Odile Treps, mais c'est Marie Treps aujourd'hui, aux éditions Sorbier. Rien à voir avec les noms d'oiseaux dont on se traite parfois.
Non, mais l'expression nom d'oiseau, ça n'a pas toujours désigné des injures.
Ah bon ?
Jusqu'au 19e siècle, ça pouvait être des noms aimables.
Ah, les noms d'oiseaux.
Voilà.
Très bien. Enfin, en tout cas, là, il s'agit de mots très quotidiens qui ont parcouru le monde avant d'arriver jusqu'à nous et puis dont on ignore le parcours. Et c'est dommage parce que finalement, quand on connaît un peu le parcours d'un mot, son sens s'enrichit. C'est comme s'il prenait de la chair, quoi.
Oui, c'est d'abord amusant d'imaginer que les mots sont... C'est vrai que les mots sont des oiseaux, ils ignorent les frontières, ils peuvent venir de très loin ou de chez nos voisins d'à côté. Et puis, on les adopte quand ils représentent des choses intéressantes et on ne se prive pas de le faire.
Il y avait eu les mots voyageurs, ça c'était une version pour adultes, quoi.
Oui.
Et là, vous sortez un livre pour enfants, illustré par Gwen Keraval, joli comme tout. Alors, on voit des oiseaux, toute espèce d'oiseaux qui transportent des mots merveilleux, mystérieux, dont on va connaître le secret. Et à l'intérieur, chaque mot, une illustration, petit voyage à faire avec ses enfants. On va commencer par un mot terrible, terrifiant, cauchemar.
Ah, cauchemar. Cauchemar, c'est un hybride, c'est-à-dire c'est un mot qui est fait avec deux mots qui appartiennent à des langues différentes. Le métissage, il existe aussi au niveau du vocabulaire. Alors, en tête du mot, il y a un vieux verbe picard, cocher, qui veut dire presser, fouler. Et puis derrière, il y a mar, qu'on retrouve dans nightmare, en anglais, mais là c'est un mot néerlandais qui veut dire fantôme. Le verbe est à la deuxième personne du singulier, donc cauchemar mot à mot, ça veut dire tu marches sur des fantômes. L'idée que faire un cauchemar, c'est avoir dérangé des fantômes, qui est une jolie idée aussi, hein. Peut-être psychanalytiquement pas stupide. Voilà. C'est vrai que quand on essaye de remonter l'origine des mots et qu'on tombe sur des mots étrangers, on fait émerger des images qu'on ne soupçonnait pas.
Alors on continue avec le diabolo.
Ah, le diabolo, oui. Diabolomante ou diabolo-grenadine.
Oui.
Donc c'est vert ou c'est rouge. Comme quoi? Comme les habits du diable. Parce qu'en italien, c'est un mot qui vient de l'italien, hein, cette boisson qui pétille diablement, là, nous vient d'Italie, et le mot diable en Italie, c'est il diabolo.
Il y a des mots comme ça qui vous intriguent, Anna?
J'avais vu baba.
Ah oui, le baba, eh bien, ici...
C'est ma gourmandise.
C'est votre gourmandise préférée. En France, c'est un gâteau, et en Pologne ou en Russie, c'est une grand-mère, une baba. Alors, le mystère, comment il s'explique? C'est qu'il y a un roi de Pologne qui est venu sur le trône français, enfin qui est venu en Lorraine, il était duc de Lorraine. Et il avait la nostalgie de son pays, ce qui lui a fait, c'est une chose un peu banale, il s'est tourné vers le sucré, vers les confiseries. Alors il avait un cuisinier qui lui inventait sans arrêt des gâteaux, et un jour, il lui a inventé un gâteau comme ça, tout rond. Mmh. Et Stanislas, ce gâteau tout rond lui rappelait les grands-mères russes, les babas russes enveloppées dans leur châle d'hiver, tout rond. Alors il l'a appelé baba.
Ah, je ne savais pas ça. Alors, on se promène dans ce livre et c'est vrai qu'on a envie, finalement, on a envie d'avoir un môme à qui raconter les histoires, parce que c'est aussi une source de rêverie, quoi. Quand on prend un mot, on part de ce que vous nous apprenez, de ce que vous nous permettez de transmettre. Et puis ensuite, on se balade, on s'envole. On va prendre pantalon.
Alors, pantalon, au XVIe siècle, on découvre Pantalone, et c'est le personnage de la Commedia dell'arte.
Oui.
Et le pantalone, il avait un habit un petit peu ridicule, comme ça, une espèce de salopette qui commençait sous les bras, qui allait jusqu'en bas des jambes, avec les jambes toutes droites. Mm-hmm. Comme les clowns aujourd'hui, un peu comme un des deux clowns. Mm-hmm. Et le pantalone et l'habit, cette espèce de salopette, est sorti et était adopté en France. Et en 1792, les révolutionnaires ont adopté cet habit-là pour ne pas s'habiller comme les aristocrates qui, eux, portaient la culotte qui était allée seulement sous le genou et qui était serrée au mollet.
Donc le pantalon est à gauche et la culotte à droite.
Et voilà, et c'est pour ça qu'on les a appelés les sans-culottes.
On revient au pas sexe, les sans-culottes. Ah oui,
pas parce qu'ils n'allaient tout nus, mais parce qu'ils ne portaient plus, ils refusaient de porter la tenue aristocratique de la culotte. Ils ont adopté le pantalon qui était rayé à l'époque.
Alors, il y en a deux que vous aimez bien, vous aimez bien qu'ils aillent ensemble, c'est bouquin et calepin.
Ah oui, moi j'adore bouquin parce que c'est un petit mot néerlandais, bukin, qui vient lui-même d'un mot beaucoup plus ancien, une racine plus ancienne, boka. D'ailleurs, ça aussi, c'est des choses qu'on peut expliquer aux enfants, comment les mots se forment petit à petit. Boka, on l'entend dans buk, le néerlandais, mais on l'entend dans buk, on l'entend dans le bourg allemand. Donc il y a un très vieux mot derrière tout ça. Et boka, ça veut dire le être, l'arbre. Pourquoi? Parce que les anciens peuples du Nord, les Norrois, fabriquaient des tablettes avec le bois de hêtre. Et sur ces tablettes, ils inscrivaient leur caractère, leur écriture sacrée, les runes. Donc quand on dit le mot bouquin, qui a plutôt mauvaise presse, on dit aux enfants, il ne faut pas dire bouquin, il faut dire livre. Et c'est bien dommage, parce que ce petit mot-là, il rappelle d'abord que derrière chaque livre, il y a un arbre. Et puis il rappelle aussi le caractère sacré de l'écriture. Et il y a une espèce de justice dans la filiation du mot, parce qu'en français, bouquin a fait des petits, et il a donné quoi? Il a donné bouquiniste, qui est quand même un endroit où on a des livres précieux, justement, le côté sacré, il est là. Et bouquiner, moi, quand j'entends ce mot-là, qui est très différent de lire, qui n'est pas du tout synonyme, je vois un enfant assis par terre, qui est dans le plaisir de la lecture.
Oui. C'est vrai, comme on aime bien aussi farfouiller. Moi, quand je bouquine, c'est sortir un livre, le rentrer, voir, essayer un petit peu, puis passer à un autre et tout. Et calepin, alors?
Alors, calepin, ça fait partie de ces mots qui doivent leur nom à quelqu'un, un personnage. Comme poubelle, par exemple. On sait ça, que poubelle, c'était le préfet, un préfet de Paris qui s'appelait Poubelle, qui inventait la poubelle. Alors, calepin, c'est un italien, c'est un mot qui vient d'Italie, qui s'appelait Ambrogio Calpino, qui était un érudit et qui a fait un dictionnaire français-latin. Alors aujourd'hui, ça ne nous fait pas vibrer, mais au XVIe siècle, ce dictionnaire était très célèbre. Il a fait le tour de l'Europe. C'était un gros dictionnaire. Alors, le mot est arrivé en français. On l'a, comme d'habitude, incorporé, adapté à nos gosiers, calpine, on en a fait calepin. Mmh. Et puis aussi, il s'est transformé au cours des siècles. Ce dictionnaire est devenu un agenda. Au cours de son histoire, il a rétréci, le calepin.
Ouais, c'est devenu un petit carnet sur lequel on écrit d'ailleurs. Finalement.
Ah oui, on écrit toujours. Mais
Oui, et vous jouez souvent au ping-pong ?
C'est
chinois,
j'adore ça.
Ping-pong, moi.
Ben, c'est ce que je croyais.
Ben, moi aussi.
Mais pas du tout.
Justement.
Ce qui prouve que l'inventeur du mot était peut-être malin, parce que ça renvoie, on se dit tiens, c'est un Américain qui a inventé ce jeu-là. Et alors, ping-pong, ça aussi,
c'est un Américain qui a inventé le jeu.
Oui, c'est une onomatopée. Ping-pong, c'est le bruit que fait la balle sur la raquette et sur la table, c'est pas le même, ping-pong.
Mais moi, quand on joue contre moi, c'est ping quand ça part de chez l'autre et blablabla quand ça arrive chez moi.
Alors, il vous faut déposer un nouveau jeu. Oui. Et un nouveau nom.
C'est ping, blablabla. Voilà, Marie Treps sera au Salon du Livre pour enfants pour présenter son livre Les mots oiseaux. C'est édité au Sorbier. Et le Salon du Livre pour enfants, c'est samedi prochain à Montreuil. C'est le 1er décembre.
Voilà.
On garde un tout petit mot du dictionnaire des mots caresses quand même, parce que c'est un classique maintenant, dictionnaire des mots caresses.
Mais c'est en écoutant Anna tout à l'heure que je me suis demandé, et d'ailleurs c'est écrit, c'est une question que je me suis vraiment posée. J'ai répertorié 1800 mots caresses, c'est-à-dire des mots qu'on utilise, qu'on prend dans le vocabulaire.
C'est le contraire des mots injures,
les
mots caresses.
C'est le contraire d'une injure, oui, c'est ça. C'est quelque chose qu'on emploie avec une intention caressante, mais il y en a plein. Et beaucoup d'animaux, par exemple. Mon loup, mon lapin, pupuce, ça gratte pourtant une puce, enfin, etc. Et pas un seul dans tout ce stock. Moi, je suis allée voir dans la littérature, j'ai écumé le cahier de la Saint-Valentin de Libé pendant plusieurs années. Pas un seul taureau caressant. Mon taureau, quand on pense quand même au coup puissant de l'animal. Et je me suis demandé comment les femmes...
Le coup, d'ailleurs,
comment les femmes appelaient
chez l'animal.
On est dimanche.
Et je me suis demandé comment les femmes appelaient Danton. Parce que mon taureau, ça aurait été parfait. Ou Depardieu aujourd'hui, peut-être. Est-ce que lui donne du taureau?
Mais vos fantasmes ne nous regardent absolument pas, Marie Treps.
Dommage. Vous auriez passé un bon moment.
Non, mais ce qui est rigolo, c'est cette inversion. Il y a beaucoup de mots qui pourraient paraître des injures et qui deviennent des mots caresses.
Ah oui, il y a deux choses quand même. C'est-à-dire que c'est très désordre, ce vocabulaire. Ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas dans les codes de politesse où on tient l'autre à distance. Madame, vous, etc. On donne la main, ça fait un mètre de distance entre les gens là. On va employer des mots spéciaux, on va même dire « mon », on fait une consommation effrénée d'adjectifs possessifs, là, qui veut dire bien, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, « mon »,« ma », »,« ma petite Chris »,« ma jolie », voilà. Et alors, dans cette bulle qu'on fait en employant ce mot-là, il se passe toutes sortes de choses étranges. Par exemple, on peut effectivement employer un terme, détourner un terme d'injure pour en faire un terme caressant, « petit con, je t'aime », où on peut prendre un terme aimable, caressant, et en faire un terme provocateur, ou même, par exemple, si je vous dis « ma belle, tu perds rien pour attendre ». J'ai fait ça.
C'est pas un mot caresse, ça.
Ah ben, c'est un mot caresse qui est un peu détourné. Mais la provocation, ça fait très bien le jeu de la séduction. Il y a aussi quelque chose qui est très drôle, une autre transgression, c'est qu'on peut donner un nom féminin à un homme et vice-versa. C'est-à-dire qu'on transgresse une règle de la langue française, qui est on s'adresse aux femmes avec des noms ou des pronoms féminins et aux hommes avec l'inverse. Mm-hmm. Hein ? Et il y a un texte qui est très joli de Giraudoux dans La guerre de Troie n'aura pas lieu. Paris s'est enlevé Hélène. Bon, ils sont à bord d'un bateau, puis Hector les a fait surveiller discrètement par un marin qui écoute ce qu'ils disent. Pendant, ils passent une nuit d'amour sur le bateau. Et alors après, le marin, il va faire son rapport et il dit « Elle l'a appelé, lui, ma chatte, ma perruche. » Et lui lui a répondu « Mon puma, mon jaguar. » Et alors le marin, qui était sûrement un fin linguiste, commente, il dit « Ils intervertissaient les genres. » C'est la tendresse, c'est bien connu.
Pour connaître les mots doux, les mots tendres, les mots troublants que vous ne manquerez pas de vous adresser dans les jours qui viennent, le dico des mots caresses, donc c'est aux éditions du Seuil, mais il y a aussi les mots oiseaux pour les enfants. Un dernier mot, Marie Treps, un petit mot oiseau, allez, pintade.
Pintade ?
Oui, pintade.
Ah, pintade. Alors, c'est les Portugais qui sont allés en Afrique, voilà, ça commence comme ça. Ils ont vu un oiseau qui n'avaient jamais vu, mais c'est de grands observateurs, les Portugais. Donc, ils, au lieu de recycler un nom de leur langue, ils en ont inventé un dans leur langue en observant l'oiseau. Donc, ils observaient qu'il y avait des petites taches blanches sur le plumage de l'oiseau, comme si l'oiseau avait l'air d'avoir été peint. Et pintada, ça veut dire l'oiseau peinte.
Ah, voilà. Et vous disiez tout à l'heure, Anna Alter, que traiter quelqu'un de pintade, c'est quand même pas...
Oh, bah, c'est plutôt péjoratif. Ah, une fille qui est pintade, ou d'ailleurs tous les oiseaux, une oie blanche,
tous les cervelles
d'oiseaux, c'est forcément une femme, une cervelle d'oiseau.
Et les noms d'oiseaux féminins, c'est qui exprime la bêtise, sont en général appliqués aux femmes.
Oui, ma grand-mère appelait mon oncle, qui était un colosse, mon petit moineau, quand même.
Ah oui, ça peut être une tendresse.
Voilà. Une blague pour finir ma retraite.
Elle est aussi, elle se passe aussi en ville et dans une voiture. Alors il y a de, ben, c'est pas une histoire juste,
c'est
une histoire belge chez moi.
La semaine des embouteillages vous a traumatisé là.
C'est peut-être ça. Et le feu est rouge, donc la voiture s'arrête et le passager se tourne vers le conducteur et lui dit c'est vert. Aucune réaction du conducteur. Alors il insiste, il lui dit je te dis c'est vert. Le conducteur pousse un grand soupir, mais ne fait rien. Alors le passager, quand même, s'énerve un petit peu. Il lui dit, enfin, tu vois pas ? C'est vert, je te dis, tu vois pas ? Et l'autre se retourne vers lui et lui dit, mais je sais pas, moi, une grenouille.